Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Angela Merkel débordée par sa droite. Ses alliés historiques de la CSU ont posé un ultimatum hier à la chancelière. Elle a 2 semaines pour trouver une solution au défi migratoire. Angela Merkel qui commence donc à négocier avec l'Italie et tant bien que mal avec la France, vous l'entendrez.
Et puis nous irons ensuite au Royaume-Uni que fuient les particuliers et certaines entreprises. La faute au Brexit. L'article 50 était enclenché il y a un an tout juste.
La tuberculose en Corée du Nord, grandissante et menaçante. À cause des sanctions, le traitement n'y arrive plus. Nous irons à Séoul.
Et puis dans cette édition encore, vous entendrez le soulagement d'un représentant de fonctionnaires dans l'éducation. La carrière des fonctionnaires sera réformée et revalorisée, annonçait hier Bercy.
L'OMS classe officiellement l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie mentale. Analyse d'un pédopsychiatre dans 10 minutes. À suivre ensuite le billet politique. Frédéric Seyss reviendra sur le coup de colère d'Emmanuel Macron face à un collégien qui l'interpellait hier de manière familière. C'était après les commémorations de l'appel du 18 juin au Mont-Valérien. Mais d'abord, ce nouveau défi lancé hier par le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. Après avoir fermé les ports de son pays aux navires humanitaires transportant des migrants, il annonce un recensement des Roms vivant en Italie. Le ministre de l'Intérieur souhaite ainsi pouvoir expulser tous ceux qui seraient en situation irrégulière, Mathilde Imberti.
Matteo Salvini veut expulser les Roms vivant en Italie sans autorisation, en procédant d'abord à un recensement de cette population, a détaillé le ministre de l'Intérieur dans une interview à une télévision de sa région, la Lombardie. Expulser les Roms étrangers en situation irrégulière, pas les Italiens bien entendu, que malheureusement tu dois garder à la maison, ajoute Matteo Salvini. Ces propos ont provoqué une levée de boucliers. Paolo Gentiloni, ex-président du Conseil du Parti démocrate, tweet « Hier les réfugiés, aujourd'hui les Roms, demain les fusils pour tous ». L'association qui s'occupe des droits des Roms en Italie relève tout simplement qu'un recensement sur base ethnique est interdit par la loi et que de toute façon les Roms sont soit pour la moitié d'entre eux italiens, soit roumains, donc européens, soit apatrides de l'ex-Yougoslavie, donc inexpulsables. Au vu de la polémique, Matteo Salvini a détaillé son projet, défendre avant tout les enfants Roms pour qu'ils aillent à l'école plutôt que d'être formés à la délinquance. Des précisions qui n'ont pas rassuré les premiers intéressés. Les représentants de la communauté Rom ont demandé en urgence un rendez-vous au ministre.
Voilà pour la nouvelle polémique lancée depuis Rome hier soir. La crise migratoire traverse plus que jamais l'Union européenne et elle fait réagir jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Les États-Unis ne deviendront pas un camp pour migrants et ne deviendront pas un centre de rétention pour réfugiés, a ainsi promis Donald Trump hier. Il répondait aux critiques quant au placement de 2300 enfants immigrés séparés de leur famille aux États-Unis. Le président a illustré son propos en agitant le spectre du flux de migrants en Europe. Et il a d'ailleurs soutenu un peu plus tard sur Twitter l'aile droite du gouvernement allemand. Les alliés historiques d'Angela Merkel, la CSU, ont en effet posé un ultimatum hier. La chancelière a 2 semaines pour trouver une solution au défi migratoire. Donald Trump acquiesce donc. Et c'est pour cela, entre autres, que coincée par ses alliés, Angela Merkel dit vouloir aider l'Italie dans ses efforts pour réduire le nombre de migrants arrivés sur ses côtes. Après avoir rencontré l'Italien Giuseppe Conte hier, elle s'entretiendra aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Les deux dirigeants vont se retrouver en Allemagne, au château de Meseberg, au nord de Berlin, pour un conseil des ministres franco-allemand. Et Cyril Sauvageot, la chancelière, est, on l'a compris, dans une position assez inconfortable.
C'est une Angela Merkel isolée et empêtrée dans une crise politique interne qui s'apprête à recevoir le chef de l'État. En Allemagne, l'aile droite du camp conservateur fait pression pour obtenir un durcissement de sa politique migratoire. Le ministre de l'Intérieur, le bavarois Horst Seehofer de la CSU, lui a donné 2 semaines pour trouver un compromis avec les Européens sur la répartition des migrants, faute de quoi il menace de prendre des mesures de fermeture des frontières. La chancelière espère obtenir le soutien d'Emmanuel Macron. L'un et l'autre sont d'accord sur la nécessité d'apporter une réponse européenne. Mais la montée en puissance des populistes en Europe n'incite pas à l'optimisme entre l'Italie qui a décidé de ne plus accueillir les bateaux de migrants et des pays comme la Hongrie de Viktor Orban qui ne veulent pas ouvrir leurs frontières. En attendant un hypothétique accord, la France et l'Allemagne devraient enfin s'accorder sur des mesures plus consensuelles comme le renforcement de Frontex, l'agence chargée du contrôle des frontières extérieures de l'Union.
Un accord à minima sur la crise migratoire contre une réforme de la zone euro. Ce pourrait être aujourd'hui une partie du marché conclu entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Car Paris, de son côté, souhaite toujours mettre en place un filet de sécurité pour les banques européennes en difficulté. Jusque-là, les positions de Berlin sont très éloignées des positions françaises, Marie Viano.
Si rien ne bouge, il n'y a plus de zone euro dans 10 ans. C'est Emmanuel Macron qui avait fait cette prédiction alors qu'il était ministre de l'économie. Devenu président de la République, il a présenté ses pistes pour faire bouger la zone euro et depuis 10 mois, il attend que la chancelière allemande le rejoigne sans succès jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est donc un peu la réunion de la dernière chance. Paris dit vouloir sceller un accord substantiel sur le budget de la zone euro avec l'Allemagne. Mais pour le moment, côté français, on imagine un budget qui se compterait en centaines de milliards d'euros, alors que côté allemand, on compte plutôt en dizaines. Outre cet écart colossal, la raison d'être de ce budget de la zone euro n'est pas non plus identique dans les deux pays. Budget d'investissement et de réduction des divergences économiques pour la France. Outre-Rhin, ce budget serait un prolongement de ce qui existe déjà à travers les fonds structurels actuels. En gros, là où Paris voit grande réforme de la zone euro, Berlin voit petits aménagements. Accorder les violons franco-allemands sur ce sujet en une journée est donc très ambitieux, mais c'est indispensable si on veut garantir à la zone euro une stabilité réelle avant que ne survienne une autre crise. Et sur le plan politique, cela éviterait que le sommet européen de fin juin ne débouche sur rien et donne ainsi raison à Donald Trump dans ses attaques contre l'Europe et le multilatéralisme en général.
À ce propos d'ailleurs, Donald Trump n'en finit pas avec la guerre commerciale qu'il a lancée. Nouvelle menace cette nuit envers la Chine. Le président américain annonce qu'il souhaite imposer un nouveau droit de douane à hauteur de 10% sur 200 milliards de dollars de produits chinois. Pékin dénonce un chantage et évoque d'autres représailles. Les lords britanniques ont infligé hier une nouvelle défaite à la première ministre Theresa May. La Chambre haute a en effet adopté à une large majorité un amendement qui offre au Parlement un droit de veto sur l'accord final du Brexit. Les députés doivent voter aujourd'hui, un an après le déclenchement de l'article 50. Preuve que la séparation d'avec l'Union européenne, malgré le référendum, a du mal à se faire. Et pour les déçus d'ailleurs, les demandes de domiciliation à l'étranger s'envolent et les entreprises se préparent à faire face à tous les scénarios, comme est allé le constater Antoine Gignot.
Les locaux sont au cœur de Londres, sur plusieurs centaines de mètres carrés. Des fauteuils, des canapés, du mobilier design. Made.com a généré l'an dernier près de 245 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'un des cofondateurs est français, il s'appelle Julien Calais.
L'incertitude a un impact important sur tout le monde. Si on doit aller, à partir de demain, exporter nos produits vers la France, les exporter vers l'Allemagne, ce sera plus compliqué. Je ne veux même pas penser à ce scénario. La deuxième chose, c'est l'effet psychologique. En termes de recrutement de talents internationaux, ça va être plus compliqué d'embaucher, les gens n'osent plus venir.
Et c'est ce que montrent les derniers chiffres. Il y a au Royaume-Uni 28 000 citoyens européens de moins que l'an dernier. Véronique Forge a fait ses études et monté sa société à Londres. Avec son mari britannique, elle déménage cet été.
Mon mari m'a dit « Écoute, je pense que je suis prêt à partir ». Et ça a été vraiment le déclic. Pas envie d'être dans un pays qui est en train de se recroqueviller sur lui-même. Il va toujours garder un pied-à-terre ici parce qu'il a une partie de ses activités en Grande-Bretagne. Moi, je vais peut-être pas fermer ma boîte tout de suite. J'en ouvre une en France. C'est pas forcément évident.
En tête des destinations de départ, l'Allemagne enregistre une hausse de 360% des demandes de naturalisation. Viennent ensuite la Suède, la Suisse, les Pays-Bas et la France, même si c'est compliqué, explique Nicolas Hatton, fondateur du collectif des 3 millions.
On n'est pas assez entendu. Quand on va à Paris, on a été à la commission Brexit du Sénat, par exemple, on a essayé de leur ouvrir les yeux sur le problème du rapatriement. Il y a des Français qui rentrent, qui ont des gros soucis avec l'administration, par rapport aux revenus, par exemple. On leur demande des certificats qui n'existent pas en Angleterre.
Pour éviter l'exil, certains gardent l'espoir d'arrêter le Brexit. Le mouvement Best for Britain vient de lancer une campagne pour réclamer un second référendum. Il a mobilisé 8 000 personnes et récolté près de 2 800 000 euros en quelques mois.
L'émissaire de l'ONU pour le Yémen dit espérer la reprise de négociations de paix le mois prochain, en juillet. Un vœu qui semble pieux car ce matin, la coalition menée par l'Arabie Saoudite est entrée dans l'enceinte principale de l'aéroport d'Odeida, tenu jusque-là par les rebelles houthis. Pendant ce temps, des milliers de personnes continuent de fuir les combats dans cette ville portuaire en pleine crise humanitaire. Partons maintenant en Corée, au sud, à Séoul. Une petite ONG humanitaire alerte. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a décidé de cesser tout envoi de traitement aux tuberculeux du Nord, au risque de rendre l'épidémie hors de contrôle. Frédérico Jardias.
La Corée du Nord affiche un taux d'infection à la tuberculose parmi les plus élevés au monde, ce qui n'a pas empêché le Fonds mondial de lutte contre cette maladie d'annoncer la fin de toute assistance aux Nord-Coréens. Une décision prise dans un contexte de sanctions accrues visant le régime et dénoncée par le père Christophe Bérard. Ce prêtre vit à Séoul et travaille pour la petite ONG humanitaire Eugene Bell. Il se rend deux fois par an au Nord pour aider les tuberculeux nord-coréens.
C'est plusieurs dizaines de milliers de malades qui vont stopper le traitement de la tuberculose. Et la conséquence directe de cela, c'est que cela va développer des résistances, la tuberculose résistante, et cette tuberculose-là est mortelle. Même avec les traitements, 20% de nos patients, nous ne pouvons pas les sauver. Elle est très contagieuse, ce qui pose un certain nombre de questions à la fois pour la Corée du Nord, mais aussi pour les pays frontaliers, notamment la Chine et la Corée du Sud. Donc c'est vraiment une décision qu'on a du mal à comprendre. Alors la question qui est posée, qui était posée avec les sanctions, faut-il punir une population pour les choix politiques de son gouvernement?
La France est le deuxième plus important donateur de ce Fonds mondial contre la tuberculose. La maladie touche plus de 100 000 Nord-Coréens chaque année, un nombre qui va grimper en flèche avec l'arrêt programmé de tous les traitements.
Et ajoutons que pendant ce temps, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en Chine en ce moment jusqu'à demain pour la troisième fois en moins de trois mois.
Il est 8h12 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Les syndicats de fonctionnaires ont eu la confirmation que leur point d'indice resterait gelé l'année prochaine.
Oui, c'était attendu. Ils étaient reçus hier à Bercy. Alors le gouvernement a tout de même fait un geste. Il relance la réforme des carrières qui avait été mise en place sous François Hollande puis suspendue l'année dernière. Comprenez l'uniformisation salariale des carrières des fonctionnaires, elle se fera donc. Petite satisfaction pour Stéphane Crochet, secrétaire général de SE UNSA Éducation.
C'est une bonne nouvelle pour tous les agents publics que leur employeur ne dénonce pas ce qu'a fait le précédent patron. Il nous annonce aujourd'hui donc qu'il n'y aura pas de nouveau report et qu'il n'y aura pas d'annulation. Alors oui, c'est un soulagement et c'est surtout une provocation évitée. C'est 2 ans de travaux pour reconstruire l'ensemble des carrières enseignantes, mais aussi de la façon d'être gérée par l'employeur avec désormais des rendez-vous de carrière pour regarder les rémunérations, mais aussi les projets professionnels. Donc c'est un nouveau contrat et ça datait de plus de 25 ans. Il y a 25 ans, ça avait été fait avec la création du corps des professeurs des écoles et pour tous les autres corps enseignants, c'était encore plus ancien que ça. Et il aurait été dommage que tout ça passe à la trappe.
L'intersyndicale de la SNCF se réunit en fin d'après-midi tout à l'heure pour évoquer l'éventuelle suite à donner à son mouvement de grève pendant les vacances d'été. La CFDT et l'UNSA, plutôt réformistes, se réunissent avant et réunissent leurs instances nationales pour en discuter. La CGT, elle, qui proposait des actions les 2, 6 et 7 juillet, indique qu'elle peut modifier sa proposition. C'est désormais officiel. Depuis hier, la dépendance aux jeux vidéo a été classé maladie mentale par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Jusque-là, la seule addiction sans substance était celle liée au jeu d'argent. Cette reconnaissance ouvre la voie au remboursement de la prise en charge et de la dépendance aux jeux vidéo qui touchent surtout les jeunes. Olivier Fan est pédopsychiatre, addictologue à la Fondation Santé des étudiants de France à Sèvres, près de Paris. Il prend en charge près de 200 adolescents à partir de 11 ans désormais. Certains sont même hospitalisés. Au micro d'Hélène Roussel, Olivier Fan explique.
La vie d'un adolescent, c'est un tiers avec la famille, un tiers avec l'école et un tiers pour les jeux. Quand il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'une activité emporte sur les deux autres, ça atteint sur le développement. Donc même s'il y a une fragilité initiale, le fait de se réfugier dans le virtuel et le fait que ce soit possible aussi, c'est difficile de le faire avec les petits chevaux ou d'autres types de jeux. Là, aujourd'hui, c'est possible et en plus, ça devient un enjeu économique. Ça commence à envahir les consultations de de pédopsychiatrie parce que on a une activité ludique qui devient une activité économique avec des enjeux. On sait qu'il y a des techniques d'accrochage. C'est un jeu qui au départ est gratuit et ensuite qui est payant si on veut avoir des vêtements, des chaussures. Et j'ai des adolescents qui prennent la carte des parents, qui dépensent 100, 200, 300 euros sur un jeu qui est censé être gratuit. Et le temps de l'enfant, le temps de l'adolescent devient un centre d'intérêt, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité.
Mounir Majoubi, vous êtes secrétaire d'État au numérique, invité des Matins de France Culture. Vous voulez, vous l'avez dit, promouvoir ce qu'on appelle l'e-sport, le sport électronique. Vous évoquez souvent les valeurs du jeu vidéo. On vient de l'entendre. Comment éviter que le temps de l'adolescent devienne un enjeu économique? On pense aux jeux en réseau qui ne finissent jamais et qui sont étudiés pour créer une forme d'addiction. Est-ce qu'il faut responsabiliser les éditeurs de jeux vidéo, Mounir Majoubi, et comment?
Eh bien, vous avez dit à quel point c'est important pour moi le e-sport. C'est tout aussi important pour moi la lutte contre les addictions aux écrans et les addictions aux mécanismes numériques d'addiction et la lutte contre ces mécanismes. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, mais pas que dans le jeu vidéo, aussi dans le jeu sur Internet, dans le jeu sur téléphone et aussi dans des services en ligne, il y a des micro-effets, des micro-comportements, des micro-expériences qui n'ont été pensés que dans un seul but, créer de l'addiction.
La faute aux éditeurs.
Pas la faute. Aujourd'hui, on leur a pas dit que c'était une faute. Donc, dans ces états généraux des nouvelles régulations numériques, ce que je souhaite, c'est qu'on soit capable de dire collectivement, ça, c'est pas souhaitable et ça, c'est interdit. Et puis, qu'on puisse expliquer que l'enjeu pour un éditeur, c'est pas de s'assurer que la personne passe des dizaines d'heures. Vous savez, sur le jeu dans le monde physique, les jeux d'argent, on a très tôt identifié des règles, des interdictions en disant on ne souhaite pas et on interdira que des personnes sensibles, etc. Sur le jeu vidéo, il faut la même chose.
Et vous pourriez légiférer en ce sens ?
Alors, c'est des réflexions que nous avons. On a lancé ces états généraux. Donc l'objet, c'est de pouvoir échanger avec les associations de familles, avec les acteurs, les joueurs. Vous savez, sur le jeu vidéo, aujourd'hui, dans le e-sport, il y a des comportements extrêmement vertueux. C'est-à-dire que dans ces compétitions de e-sport, vous pouvez avoir près de 4000 personnes qui viennent jouer. Vous avez des attitudes collaboratives et vous avez des éditeurs qui s'engagent pour faire que ceux qui jouent au jeu vont aussi faire du sport dans le monde réel. Et ça, si on a fait que des gens qui se sont rencontrés en ligne continuent ensuite dans le monde physique, on a tout gagné. Et avec la ministre des Sports, je peux vous assurer qu'elle et moi, nous sommes parfaitement engagés pour faire que le e-sport ne soit pas qu'une pratique enfermée seule dans une chambre, mais ce soit bien une pratique ouverte, collective, qui mène à l'activité physique. Le plus grand danger, c'est sédentarisation plus addiction. Le plus grand des chances, c'est collaboration et activité physique.
Merci Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Vous restez avec nous encore un gros quart d'heure. Ce mardi s'annonce globalement ensoleillé, avec des températures en hausse selon Météo France. Près des Pyrénées et sur les régions qui bordent la Manche et la Belgique, le ciel sera couvert ce matin avant les éclaircies de l'après-midi. Il fera donc plus chaud qu'hier. 17 degrés à Brest et à Lille, 18 en région parisienne ce matin, 22 à Bordeaux, Périgueux, Besançon et déjà 28 degrés à Marseille.